Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour, ici Hugo Meunier, journaliste chez Urbania. Si vous êtes éco-anxieux, vous avez probablement une relation conflictuelle avec le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Je l'ai invité chez Urbania pour lui poser toutes les questions que vous auriez aimé lui poser. Voici ce que ça donne.
La première fois que j'ai été présenté au président Biden, c'était à une conférence de l'ONU sur les changements climatiques. J'étais avec le premier ministre Trudeau, puis là, le premier ministre se tourne vers moi, puis tu as déjà rencontré le président Biden. C'est sûr que non, monsieur le premier ministre. Il dit, viens-t'en, je te le présente. Puis là, il accroche le président Biden par l'épaule. Puis il dit, hey Joe, il dit, je te présente mon nouveau ministre de l'Environnement. C'est un vrai écologiste. Il s'est fait arrêter 4 fois.
Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue chez Urbania.
Merci.
Là, vous êtes venu en Hummer, j'imagine?
Je suis venu en STL.
Oui. Fait qu'on a plein de questions intelligentes à vous poser ici. Et moins intelligent.
C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un ministre, et encore moins le ministre de l'Environnement, qui est quand même une préoccupation assez généralisée entre les murs d'Urbania. Mm-hmm. C'est sûr qu'on a... J'ai des collègues assez jeunes. L'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que cette panique-là a sa raison d'être?
Je pense que les gens ont raison d'être inquiets parce que quand on regarde plusieurs indicateurs sur les questions environnementales, biodiversité, crise climatique, pollution plastique... C'est préoccupant. Mm-hmm. En même temps, ce qui m'inquiète dans l'éco-anxiété, c'est cette idée-là chez certaines personnes que tout est perdu d'avance. Alors que moi, je ne pense pas que c'est le cas. On est capable de relever ces défis-là. Ce qui est frustrant, je pense, pour beaucoup de gens, c'est que, et particulièrement chez les jeunes, ils aimeraient voir des changements rapides. Puis ça, c'est difficile. Je vais faire un parallèle. La couche d'ozone, les plus jeunes qui regardent ça se souviennent, ont probablement jamais entendu parler de ça, mais quand nous, on était jeunes...
C'était l'épouvantail de notre époque. Là.
C'était la crise climatique.
Le trou dans la couche d'ozone.
1987, ici à Montréal, on signe le protocole de Montréal, une entente des Nations unies pour éliminer les CFC, les produits qui affectent la couche d'ozone. Les scientifiques nous disent qu'en 2060, à peu près, la couche d'ozone va être correcte. Fait que ça va avoir pris de 1987 à 2060. Ouais, ouais. Sur les changements climatiques, sur la biodiversité, on est sur des échelles de temps semblables. Ça va prendre des décennies à ce qu'on reprenne le contrôle un peu de la situation.
Puis en même temps, depuis la fin des années 80, il n'y a plus de spray net. Le trou de la couche d'ozone se porte mieux sans le spray net pour les cheveux.
T'sais, même s'il n'y a pas de bénéfice à court terme en termes de changement climatique, il y a des bénéfices à court terme en termes de qualité de l'air, par exemple, pollution de l'air, smog. C'est ça, les gens vont... Puis on voit déjà les bénéfices de ça. On n'a presque plus de journées de smog au Québec. On en avait, il n'y a pas si longtemps que ça, là, 20-30 par année. Pourquoi? Essentiellement deux choses. L'Ontario a arrêté de brûler du charbon pour faire de l'électricité. C'était presque la moitié de notre pollution atmosphérique. Puis l'autre raison, c'est qu'on a banni à Montréal...
Les feux...
Les poêles à bois.
Les poêles à bois.
Ça ne change pas le bilan du monde en matière de lutte au changement climatique, mais en termes de qualité de l'air, pour des millions de personnes au Québec, ça fait une grosse différence.
Puis ça aide, j'imagine. C'est rassurant de voir qu'il y a des petits changements qui peuvent se faire et que le fait de composter et de toutes les petites habitudes que nous, on a, si on ne fait pas ça dans le beurre... Non plus. Il y a quand même une partie, j'imagine, du réchauffement qui se fait parce que c'est ça qui est ça. Puis il y a une partie que ça doit être l'activité humaine. Est-ce que,
les scientifiques estiment qu'à peu près le 3/4 du réchauffement qu'on voit est dû à l'activité humaine. puis qu'il y a des variations naturelles qui comptent pour à peu près 25 % pour à peu près un
Donc,
quart.
Donc, c'est vrai que c'est l'activité largement. Humaine.
Oui, oui.
Lorsqu'on quand vous signez, vous faites un accord comme à la COP 28, comme ça, tous les pays s'entendent, il faut que les babines suivent les bottines.
Absolument. L'administration Biden est vraiment dévouée. Ils font beaucoup de choses. Ils sont en train de changer la trajectoire des États-Unis, de plusieurs pays dans le monde. La Chine est devenue le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde. Une voiture électrique sur deux qui est produite dans le monde, grosso modo, est vendue en Chine. La situation a commencé à changer au Canada aussi. On a réduit la pollution climatique dans les 8 dernières années au Canada de l'équivalent de retirer sur nos routes 30 millions de véhicules, en gros. C'est pas insignifiant, non. Mais c'est passé. Il y a toujours un risque, tu sais, aux États-Unis, ça va bien avec l'administration Biden, mais si Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis, si Pierre Poilievre prend le pouvoir au Canada, on retourne 20-30 ans en arrière.
Mais pour le citoyen moyen, il y a quelque chose d'extrêmement préoccupant de savoir que le sort de la planète repose entre les mains d'une ligne de parti, que ce soit un changement de gouvernement aux États-Unis qui peut faire toute la différence. Ça devrait être plus grand que ça.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, tu sais, je rêve du jour où, dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, cette question-là ne sera plus une question qui est démarquée par les lignes de parti. Tu sais, tu regardes dans plusieurs pays dans le monde, présentement, c'est le cas, plusieurs pays scandinaves, par exemple, soit des gouvernements un peu plus à gauche, un peu plus à droite, sur la question des changements climatiques, il n'y a plus vraiment de débat. Même ici au Québec, tu sais, je ne veux pas dire que la CAQ est parfaite sur les questions environnementales.
Il y a une sensibilité.
Il y a une sensibilité, il y a un plan d'action.
Mais comme vous dites, ça demeure un peu à géométrie variable. Ouais. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était aussi à Dubaï.
Ouais.
Elle n'avait pas la même mission que vous, nécessairement. Non. Elle était surtout obsédée, voulait repousser la position des gens qui obsèdent sur l'élimination progressive de pétrole, mm-hmm. de gaz. C'est pas mal vous, là.
Elle se passe rarement une semaine sans qu'elle fasse une vidéo pour dénoncer.
Elle veut votre tête, là.
Oh, oui, elle demande ma démission une fois par semaine, en moyenne.
Oui.
Oh, oui, non, je
Comment
pas.
Vous vous dormez bien, c'est correct? Vous regardez en dessous de votre auto? Ben non, vous n'avez pas d'auto, c'est
j'ai
vrai?
J'ai pas d'auto. Ben, ouais, alors, puis elle peut pas mettre grand-chose en dessous de mon vélo. Ça serait compliqué, je le verrai assez vite.
Tous les écologistes, ou presque, s'inquiètent de l'impact de la construction de l'usine de Northvolt en Montérégie. Il y a une demande d'injonction qui vient d'être déposée pour suspendre les travaux. L'abattage des arbres a été interrompu. Vous pensez quoi de ça? Parce qu'on ne vous sent pas grimper d'un rideau par rapport à ce dossier-là.
Les données démontrent que de passer d'un transport, un système de transport à base de pétrole, à un système de transport basé sur l'électrification, c'est des réductions d'au moins 50 % sur l'ensemble du cycle de vie là, d'une voiture à essence versus une voiture électrique, c'est au moins 50 %.
Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Parce qu'il y a quand même... C'est, pour mener à ça, il y a quand même beaucoup d'abattage puis de...
C'est pas pour dire que l'électrification des transports puis ce qu'on doit faire pour électrifier nos transports n'a pas d'impact sur l'environnement.
Ouais.
Notre rôle comme société, c'est de mettre en place les solutions qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Mais... C'est vrai que de construire une usine, ça a des impacts, peu importe ce que fait cette usine-là. On a abattu des arbres pour faire un système pour faire une voie réservée sur l'avenue P9 à Montréal, puis il y a des gens qui disaient « faut pas faire ça ». Il n'y a pas de solution magique où tout ce qu'on va faire aura aucun impact sur l'environnement. Un des grands bénéfices, il y en a plusieurs, de passer d'un système de transport à essence à un système de transport électrique, il n'y aura plus de guerre pour le pétrole. Parce que personne qui fait des guerres pour la production d'électricité. C'est assez localisé ou régionalisé. Puis on en a fait combien de guerres pour le pétrole dans les dernières décennies? Il y a combien de centaines de milliers de personnes qui sont mortes? Dans un avenir pas trop lointain, ça va être fini, ça. Ça va être derrière nous. Plus de compagnies pétrolières qui décident avant les vacances de la construction. Oups! Le prix du gaz augmente de 20, 30, 40 cents, comme par magie avant les vacances de Noël.
Votre gouvernement a donné son feu vert l'an dernier au projet controversé de Baie-du-Nord qui prévoit l'extraction de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve. Tous les environnementalistes, je ne vous cache pas, incluant votre ancienne gang d'Équiterre, ont fustigé ce projet-là. Ouais. Vous avez dit que vous l'avez assumé, ce projet-là, à 100 %. Est-ce que c'est pas un peu ça, le dark side d'une ligne de parti?
En fait, c'est pas une ligne de parti. C'est quand on est au gouvernement, il faut faire des choix qui sont rarement basés sur une seule question. Au moment où j'ai accepté Baie-du-Nord, j'ai dit non à un projet de mine de sable bitumineux qui aurait mis 10 fois plus que Baie-du-Nord. Et c'est sûr que ça paierait beaucoup en chiffres, Baie-du-Nord, tu sais, de 300 millions à 1 milliard de barils. 1 milliard de barils de pétrole, c'est la consommation du Québec sur 7 ans.
Ça fait ça.
On consomme au Québec 360 000 barils de pétrole par jour. Puis, tu sais, on est bien content de dire au Québec qu'on ne produit pas de pétrole. C'est sûr, on n'en produit pas, mais il y a quelqu'un qui le produit pour nous autres.
Oui, on en consomme. T'sais, on en consomme.
Terre-Neuve, ce n'est pas une province qui est super riche. Puis c'est une province, puis j'ai eu beaucoup de conversations avec le premier ministre de Terre-Neuve, qui n'est pas un climato-sceptique, c'est pas Daniel Smith, c'est pas Scott Moe. Il dit, moi, j'ai pas de revenus, je peux pas investir présentement, ma province est cassée. Ça peut paraître paradoxal, mais ces revenus-là du pétrole vont me permettre d'investir dans la transition. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont trouver que c'est une hérésie que de dire ça. Puis, il y a encore beaucoup d'emplois qui sont très dépendants du pétrole. Fait que c'est une province, comme bien des endroits dans le monde, qui a besoin d'un peu de temps pour faire cette transition-là. Mmh. Alors, c'est sûr que si j'avais juste regardé ça d'un point de vue environnemental, c'est sûr que j'aurais dit non à Baie-du-Nord, mais il y avait plusieurs autres facteurs à prendre en compte.
Le ministre de l'Environnement français a récemment démissionné de son poste en raison de sa désillusion envers le manque d'engagement de la France en matière de changement climatique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis est-ce que vous iriez aussi loin si vous étiez en désaccord total avec des décisions prises en haut?
Oui, je pense que si j'étais en désaccord total... Moi, je suis venu en politique pas pour aller en politique. Je suis venu en politique pour poursuivre des objectifs que j'avais et que le gouvernement, notre gouvernement s'était donné. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, « Ouais, mais pourquoi tu démissionnes pas dès que ça fait pas ton affaire? » Je suis père de 4 enfants, puis je gagne jamais toutes mes batailles à la maison. Ça arrive jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas pour toi, là.
Alors, j'essaye même pas.
On a eu beaucoup de réalisations, mais je ne gagne pas toujours mes points autour de la table du cabinet. T'en perds, puis t'en gagnes. Je pense que tant que t'en gagnes plus que t'en perds, il faut que tu restes là. Tu sais, si les gens qui ont des convictions profondes en environnement ne vont pas en politique, qui va aller défendre ces points-là? Mm. Tu sais, c'est important qu'on ait des gens à l'extérieur, dans les ONG, les mouvements de jeunes, dans les banques, les entreprises, mais ça prend des gens aussi dans les partis politiques, oui, oui, puis au gouvernement qui sont prêts à faire ce travail-là.
C'est plus rassurant aussi d'avoir quelqu'un qui a une feuille de route de militantisme en environnement, dans un poste en environnement.
Le militant, là, il n'est pas parti, il n'a pas serré son habit de militant au vestiaire quand il est arrivé en politique. Puis je pense que le premier ministre m'a nommé à l'environnement parce qu'il voulait un militant comme ministre de l'Environnement.
Oui.
Et moi, je te dirais que ma job comme ministre de l'Environnement, c'est d'être un militant à l'intérieur du gouvernement, alors qu'avant, j'étais un militant à l'extérieur du gouvernement.
Bon, là, c'était sérieux, ça, quand même. Hein? Plus qu'à vous, plus que vous pensiez. Vous avez dit non?
Ben, j'arrive sur Bania, puis ça
ouais,
va être...
Oui, oui, mais non, c'était sous-estimer ce génie. Mais là, j'ai des questions un peu plus légères.
Okay.
On a quand même, je pense qu'on a refait le monde. Donc, en rafale, Justin Trudeau ou Justin Bieber?
Justin Trudeau.
Faire un don à Équiterre ou faire un don à Greenpeace?
Ah, ça, c'est tough en chien.
Ben
j'ai
oui.
travaillé pour les deux.
Je
continue d'avoir beaucoup d'amis qui sont dans ces organisations-là. Je splitterais mon don en deux.
Ah, oh, c'est ça. Passer une soirée au Monster Spectacular du stade ou au Régate de Valleyfield?
Je suis jamais allé à aucun de ces
aucun
deux.
Aucun des deux?
Aucun
non.
des deux. Je pense que je flipperais un 25 cents.
Vélo l'hiver ou unicycle l'été?
Je fais du vélo d'hiver depuis plus de 30 ans à Montréal. Je n'ai jamais essayé un unicycle, mais c'est sur ma liste de choses à faire.
Ah oui, sur la bucket list. Laure Varidel ou Laura Secor?
Ah, Laure Varidel.
OK, OK.
Je demeure un grand fan.
Oui, oui. Ben oui. C'était un test pour voir si votre relation allait bien. Là. Fait
oui,
que j'ai
oui.
eu ma réponse. Des vacances économiques au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba?
Ça dépend quand. J'étais à Winnipeg.
Oui.
Hier, il fait fret en chien à Winnipeg.
Gêne. Rien qui coupe le vent, on dirait, dans ces places-là.
Non, c'est ça. Alors, tu sais, l'été peut-être plus, mais...
Ouais, ouais. Ouais. Canicule ou froid sibérien?
Je préfère le froid à la chaleur, si on me donne le choix.
Oui, ouais, moi aussi. J'ai une catégorie hockey junior. Les Foreurs de Val-d'Or ou les Pétroliers de Laval? Ça existe pour de vrai?
Ah, je savais pour les Foreurs, mais je savais pas que c'était les Pétroliers de Laval.
Je veux dire, à quand les éoliennes de Kamouraska?
Ça ressemble aux Oilers d'Edmonton.
Oui, c'est ça. Exact.
C'est
ça. Il y a peut-être un petit rebranding à faire pour ces teams-là. Dernière, ministre du patrimoine ou ministre de l'Environnement?
Honnêtement, j'ai adoré mon passage au patrimoine parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup sur le secteur des arts et de la culture. Mais c'est sûr que l'environnement,
ben oui.
c'est un peu le dream job pour quelqu'un
ben
comme
oui,
moi.
Ben oui, on a tout fait quoi au début, mais là, maintenant, ça va. Vous êtes sur votre, dans le bon ministère.
Sur mon X. Ça m'a permis d'apprendre...
La politique.
La politique, le métier de député, le métier de ministre. Ouais. Je pense que si j'étais arrivé tout de suite à l'environnement, ça aurait été plus casse-cou. Quand je suis arrivé au patrimoine, j'avais pas beaucoup d'attentes.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'à l'environnement, les attentes étaient très élevées,
ouais, ouais.
Mais j'avais déjà... 2 ans d'expérience. C'est pas beaucoup, puis c'est beaucoup en politique en même temps. Je pense que ça m'a aidé.
Ben, pour vous familiariser un peu. De toute façon, c'est pas comme si la planète brûle. On a le temps, là. Il n'y a pas de problème. Merci, Stephen Guilbeault.
Merci beaucoup, Hugo.
Merci. Merci.
C'est des semaines en moyenne de 70
heures.
Des fois.
Comme pas mal, moi, chez Urbania.
Salut bien, merci d'être passé. Bye-bye.
Si vous avez aimé, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Hugo Meunier pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc. Ah!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.